24 janvier 1984, Steve Jobs dévoile un étonnant petit ordinateur personnel doté pour la première fois d'une interface graphique. Son nom, le Macintosh. 40 années se sont écoulées depuis et pour célébrer cet anniversaire et la 500e d'On refait le Mac, émission spéciale d'ORLM avec un invité exceptionnel, Bertrand Serlet, le papa de macOS 10. Ce Français a dirigé de 1997 à 2011 la plateforme technologique de la firme de Cupertino en tant que vice-président senior, un personnage clé de l'histoire d'Apple qui nous révèle le rocambolesque rachat de Next, du rôle qu'il a joué aux côtés d'un autre Français, Jean-Marie Hulot, dans la folle épopée de Next et de macOS 10, puis de l'iPhone et comment Steve Jobs a repris le pouvoir au sein d'Apple. Une interview rare, jamais lue ou entendue, du moins jusqu'à aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Une émission exceptionnelle, car nous célébrons, vous le savez, le 500e épisode d'On refait le Mac, mais également le 40e anniversaire du Macintosh, lancé le 24 janvier 1984. Nous avons prévu d'ailleurs un cycle d'émissions spéciales pour célébrer l'événement, et nous avons la chance cette semaine de recevoir un témoin privilégié de l'histoire du Mac, Bertrand Serlet. Bonjour Bertrand.
Bonjour Olivier.
Alors Bertrand Serlet, ils ne sont pas nombreux, hein, les Français qui ont évolué au cœur du réacteur Apple de 1997 à 2011. Vous étiez senior vice-président en charge de la plateforme technologique, notamment de macOS 10. Vous êtes l'un des pères de l'OS moderne du Mac. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça fait quelques années que je vous cours un petit peu après, vous le savez. Pourquoi, tout simplement, première question, avoir enfin accepté de nous rejoindre, vous liez avec nous, célébrer ce 40e anniversaire ?
Eh bien, après avoir quitté Apple donc en 2011, je suis allé dans le monde des startups et j'ai fait plusieurs startups. Et mon dernier startup a été racheté par Microsoft. Donc, j'étais à Microsoft jusqu'à la fin de l'année dernière. Et donc maintenant, je suis libre.
Bien, ravi en tout cas de enfin vous voir en chair, en os. Ça faisait quelques années effectivement qu'on voulait avoir votre témoignage. Et quel plus beau témoignage pour célébrer ces 500e anniversaire dont on fait le Mac en termes d'épisodes et les 40 ans du Mac. Avant de revenir sur votre parcours et ouvrir ensemble votre album de souvenirs, mon cher Bertrand, pas de chroniqueur à mes côtés, exceptionnellement, pour vous offrir le plus de temps possible, le plus de temps de parole, mon cher Bertrand, mais vous retrouverez Laurent et Christophe ou Stéphane qui interviendront via des questions enregistrées. Voilà. Enfin, un salut particulier aux membres du club ORLM. Vous le savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance, en direct. Vous êtes aussi invité à assister à des enregistrements au Village Baissé à Paris. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant ce QR code. Bertrand, en flashback, nous sommes le 24 janvier 1984. Steve Jobs monte sur scène pour nous présenter un étonnant petit ordinateur. Son nom, c'est Macintosh. Voilà, c'était le début, c'est amusant, des keynotes qui aujourd'hui vraiment sont instaurées dans de la tech, même au-delà de l'industrie en général. Alors, vous n'étiez pas encore au sein d'Apple à ce moment-là. Cette annonce a eu un énorme retentissement dans l'univers de la micro-informatique. Est-ce que ça vous a gardé un souvenir particulier ? Vous n'étiez pas forcément un fan du Macintosh de la première heure.
À cette époque-là, je travaillais à l'INRIA. J'étais en train de finir ma thèse, donc l'INRIA à Roquencourt. Et donc, je l'avais vu, mais dans les nouvelles, comme tout le monde.
Et vous n'imaginiez pas, à un moment donné, faire partie de l'aventure ?
Non, pas du tout.
On va voir ça ensemble. Avant de raconter, Bertrand, avec vous, comment vous avez été amené à rejoindre Apple et être un acteur majeur, vous allez voir, de la genèse de macOS 10, la partie moderne du Mac. Vous l'avez dit, vous avez été formé en France, vous êtes un pur produit du savoir-faire français en matière de formation informatique, en matière de mathématiques. Est-ce qu'on peut faire brièvement votre parcours Universitaire, si on peut le faire.
Oui, j'ai fait mes études à Orsay et l'école normale et aussi donc à l'INRIA. Donc c'est là que j'ai fait ma thèse.
L'Institut de recherche en informatique et en automatique.
C'est ça.
Qui a également accueilli de très grands noms de chercheurs qui ont fait les belles heures d'Apple.
Et donc en 1984, je faisais ma thèse avec mon professeur qui s'appelait Jean Villemin. Et j'avais un collègue qui s'appelait Jean-Marie Hulot. Et donc, j'étais à l'INRIA en train de finir la thèse. Et j'étais allé à Xerox PARC, passer quelques semaines en 83. Et donc, en 84, j'ai eu l'occasion d'aller à une conférence aux États-Unis. Et en fait, je suis passé par PARC.
On va revenir sur le parcours Xerox PARC parce qu'il y a un rôle important dans la genèse du Mac. On va en parler. Vous parliez de Jean-Marie Hulot. Hein, c'est une personne importante, hein, c'est l'un de vos mentors, c'est une personne importante dans l'histoire d'Apple, dans l'histoire du Mac, c'est notamment l'un des papas d'interface Builder, hein, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez, et un acteur majeur de la genèse de Next, qui deviendra macOS 10, et des outils plus tard qui vont permettre l'arrivée de l'iPhone, donc il a joué un rôle majeur. On a choisi également ensemble, mon cher Bertrand, de lui rendre hommage aujourd'hui, notamment son travail. On va consacrer un chapitre entier à Jean-Marie tout à l'heure pour célébrer les 40 ans du Mac. On voulait avoir aujourd'hui une pensée pour Jean-Marie, donc revenons, Bertrand, à votre parcours. Et contrairement à la French Tech aujourd'hui, les ingénieurs qui avaient l'opportunité de partir aux États-Unis en Californie n'étaient pas si nombreux que cela au milieu des années 80. Alors, racontez-nous comment vous êtes amené à travailler pour le Xerox PARC.
Eh bien, donc lors de la conférence aux États-Unis, j'ai visité un autre ami français qui travaillait à Xerox PARC, qui s'appelle Louis Monnier. Et il m'a dit, écoute, pourquoi tu resterais pas ? Et donc, j'ai fait mon résumé quand j'étais à PARC pour la visite. Et ensuite, ils m'ont fait une offre.
Alors, c'était pas si courant hein, de s'expatrier. Alors, aujourd'hui, avec la French Tech, ça peut paraître tout à fait normal. C'était pas une décision. C'est une décision facile à prendre. Vous étiez tout jeune, mais quand même.
J'étais tout jeune. J'ai même pas, je dois dire, réfléchi. L'offre était sur le plan financier intéressante. Il m'avait offert 30 000 dollars, ce qui était magnifique pour moi à l'époque. Mais c'était pas vraiment le salaire qui m'attirait. C'était le fait que il était clair d'ores et déjà qu'il y avait eu beaucoup d'innovations avec Xerox PARC, que c'était les fondations de bien des technologies dans l'informatique.
Le Xerox PARC, c'était un centre de recherche et développement de Xerox, qui est toujours un géant de l'impression, mais à l'époque aussi un géant de la tech en général. Et c'est là, on va voir ensemble si vous êtes d'accord, parce qu'il a joué un rôle majeur, le Xerox PARC, dans la genèse du Mac. Et sans l'interface, je vous propose un petit gros plan. Pour célébrer les 40 ans du Mac, NordVPN vous fait un cadeau de 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez une offre VPN de 2 ans. Aussi, si vous en avez assez des pubs de plus en plus nombreuses sur YouTube et souhaitez profiter de l'offre premium de YouTube pour pas cher, NordVPN vous propose un petit tip. Lancez l'app NordVPN sur votre Mac ou iPhone et sélectionnez l'Argentine ou l'Ukraine. Vous pourrez alors accéder à une offre d'abonnement premium à YouTube à seulement 2 euros par mois. Pour vous abonner à NordVPN, rien de plus simple, scannez le QR code qui s'affiche à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Alors, le premier chapitre de cette émission, mon cher Bertrand, c'est inspiré de Xerox PARC. Vous confirmez ou pas, mon cher Bertrand, que le Xerox PARC a inspiré le Mac ? Oui ou non ?
Oui, je pense que c'est clair. Il y a cette visite qui a été très bien publiée de Steve Jobs vers la fin des années 70, en 79, je crois.
Exactement.
Où il a visité l'équipe Smalltalk. Et l'équipe Smalltalk, c'était l'une des trois équipes à Xerox PARC. Il y avait une équipe Smalltalk, une équipe Lisp et une équipe Cedar dans laquelle j'étais. Et ces trois environnements, trois langages de programmation, trois environnements, trois laboratoires différents qui étaient en compétition, mais qui tous avaient les mêmes bases, c'est-à-dire un ordinateur, je dirais, moderne, avec un écran bitmap, une souris. Tous les ordinateurs étaient reliés à travers un réseau local. Et ces trois éléments, déjà, détonnent complètement. la masse des gens n'a découvert la souris et l'écran bitmap que justement avec le Macintosh.
Mais contrairement, je dirais, au département de R&D moderne qu'on a aujourd'hui dans les grandes entreprises, les chercheurs à l'époque n'étaient pas focalisés sur des applications industrielles. Il y avait une volonté de recherche pure, de performance pure, je dirais. Il n'y avait pas ce qui explique peut-être qu'il n'est pas réfléchi à des applications commerciales autour de ces avancées majeures.
Oui. Ce qui s'est passé, c'est que Xerox a inventé la xérographie. La technologie pour les copieurs des années 70. Et ils avaient des patentes dessus. Et donc, ils avaient un quasi-monopole. Des brevets. Ils avaient un quasi-monopole sur la façon d'imprimer. Et donc, ils imprimaient littéralement les dollars.
Et donc, ils recherchaient à tout azimut, sans forcément se dire...
Et donc, Wall Street leur a dit, c'est bien ce que vous faites, vous générez plein de profits, mais vous n'investissez pas dans la recherche. Alors, ils ont dit, OK, très bien. Et donc, ils ont créé Xerox PARC sans grand espoir de retour, à part justement répondre à Wall Street.
Alors, vous le rappelez, Bertrand, qu'on a découvert plein de choses au Xerox PARC, le réseau local Ethernet notamment, l'impression laser en réseau. Le WYSIWYG, hein, « What you see is what you get ». C'est vraiment, à l'époque, les écrans, c'est des interfaces avec des lignes de commande et un ordinateur monochrome. Donc, c'est vraiment, à l'époque, révolutionnaire. Ils avaient, on le voit à l'image, développé un ordinateur qui s'appelait le Alto, qui était plutôt un super ordinateur pour l'époque, hein, mais pas du tout avec une vision, comme pouvait l'avoir Steve, grand public.
Voilà. Voilà.
On l'appelle Steve comme si c'était mon pote, mais vous l'avez compris qu'on est plus que fan que pote. Hein. Et puis, il y a eu vraiment de très grands chercheurs qui sont passés par le Xerox PARC, hein, Alan Kay pour la programmation par objet, Buter Lampson pour son travail en architecture de machines et systèmes, Charles Chuck Taker pour la conception de l'Alto, qui ont tous reçu le prix Turing. Donc c'est quand même une référence. Je comprends pourquoi vous avez signé au Xerox PARC. Donc c'était en 85. Alors, ce qui est amusant, vous rappeliez...
84.
84. C'est amusant que vous rappeliez tout à l'heure le passage de Steve. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont attribuées à Steve Jobs. Il y a une citation de Steve qui aurait été déclarée au moment où il visitait le Xerox PARC. Il a été vraiment agréablement surpris. Il aurait déclaré « They just had no idea what they had ». Ils n'avaient simplement pas idée de ce qu'ils avaient entre les mains. Et c'était certainement vrai. Et dès qu'il est parti... il s'est mis à travailler à l'interface graphique WYSIWYG. Ce n'était pas forcément le Mac. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a Lisa aussi qui a été développée en parallèle. Lorsque vous y étiez brièvement, mon cher Bertrand, au Xerox PARC, quels étaient les projets sur lesquels vous avez concrètement travaillé ?
Alors, je travaillais sur la description des puces, des circuits intégrés et les outils de conception pour faire
Donc du hardware ?
Du hardware. Enfin, du software pour le hardware.
D'accord. Et c'est à ce moment-là, alors que vous travaillez au Xerox PARC, qu'on vous propose de rejoindre Next. Est-ce que vous pouvez nous raconter Next, et alors, on rappellera dans un instant qu'est-ce que c'est Next.
J'ai beaucoup écrit de code, évidemment, quand j'étais à PARC. Et donc, on a construit un très bon système de conception, mais j'étais très frustré aussi parce que c'était un très bon système qui était pour 6 personnes.
Oui, c'est pour... Oui.
Donc, ma mesure ma métrique de succès, c'est écrire des lignes de code, donc multiplier le nombre de lignes de code, mais multiplier par l'audience. Et donc, je parlais de temps en temps à Jean-Marie, que je connaissais bien... Jean-Marie Hulot, que je connaissais bien de par notre séjour commun à l'INRIA. Et Jean-Marie me dit, tu devrais venir le start-up que j'ai rejoint, c'est le start-up de Steve Jobs, c'est Next. Et voilà comment je suis arrivé à Next.
Alors, on va revenir, Bertrand, sur l'aventure Next, que les moins de 20 ans, malheureusement, ne peuvent pas connaître, hein, et qui constitue véritablement les fondations, vous allez voir, de macOS tel que vous le connaissez aujourd'hui. De Next à Apple, en guise de rappel, Bertrand, Next est la société créée par Steve Jobs en 85, après son éviction d'Apple, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Et quelle était l'ambition à l'époque de Next ? C'était pas du tout de concurrence. C'est le Mac à l'époque. Hein.
Je pense que dans la tête de Steve, il y avait toujours cette idée de concurrencer le Mac, mais il ne pouvait pas vraiment faire ça. Et donc, il a positionné la machine Next, le Cube Next, comme étant une machine pour l'éducation, l'éducation au niveau université. Il fallait, parce que c'était une machine très chère.
Ouais. Alors, vous parliez du Cube, hein, le premier ordinateur Next a été présenté en 88, c'était le Next Cube. Vous l'avez dit, ce n'est pas du tout un concurrent du Mac, c'est une station de travail assez très puissante pour l'époque, assez révolutionnée par son interface, on va en reparler. Vous êtes un des inspirateurs de cette interface, enfin de ce système d'exploitation. D'ailleurs, on le voit le Cube là, il d'ailleurs inspire plus tard le Power Mac Cube, hein, qui est une machine mythique de la début des années 2000 de chez Apple. Et que moi, personnellement, est ma machine préférée. En 90, apparaît la Next Station. On le voit, le cube qui est vraiment magnifique, qui a l'impression qu'il lévite dans l'air. En 90, c'est après le cube de chez Next, il y a le Next Station qui apparaît. Mais les ventes des ordinateurs Next n'ont pas vraiment décollé à l'époque, Bertrand. Comment expliquer cet échec commercial?
C'était beaucoup trop cher. C'était une machine de luxe. Je crois qu'elle était de l'ordre de 10 000 dollars.
Ticket d'entrée.
C'était bien plus en dollars qu'elle de l'époque. Ça fait une machine qui est démesurément chère.
Ouais. Environ 50 000 unités hein, auraient été livrées au total. Hein. C'est vrai que ça, c'est pas beaucoup. Néanmoins, cette station de travail aura marqué l'histoire, hein, c'est moins qu'on puisse dire, car une de vos machines a été utilisée par Tim Berners-Lee, hein, qui a inventé le World Wide Web. C'était sur un ordinateur Next. C'est pas mal comme carte
de visite. Et je crois aussi que le jeu Quake a été aussi réalisé sur la machine Next.
Donc, j'avais oublié ce point de
le web et les person shooters, les first person shooters.
Alors, c'est pas un succès commercial, mais un énorme succès critique à l'époque, si on peut l'appeler comme ça, de la part des gens qui regardaient le système d'exploitation. Tout le monde reconnaît les qualités de ce que constitue le joyau de Next, son système d'exploitation qui s'appelait Next Step, orienté objet. Du coup, très rapidement, la direction Next choisit de mettre tout le paquet sur l'OS et d'abandonner la vente d'ordinateurs.
Oui, c'était sur le plan économique. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choix. Ça coûtait beaucoup trop cher de faire des ordinateurs. Et donc, il y a eu différentes étapes là, mais on a fini par mettre Next Step transformé en Open Step, même sur les PC.
Voilà, donc on vous l'avait adapté. Alors, il faut rappeler que le Next, à l'origine, c'était plus 68 000, qui était la même puce que le Mac avant le Power PC. Vous l'avez adapté à la puce Intel. Ça, c'est un moment important pour l'avenir. Notez bien que Next Step fonctionnait sur puce Intel. Alors, qu'est-ce qu'il avait de plus innovant à l'époque par rapport au système d'exploitation comme macOS qu'on utilisait à l'époque sur nos vieux Mac des années 80 ?
Là, je pense qu'une des grandes innovations, c'était de mettre Unix à la base. D'avoir
un noyau
Unix dans
extrêmement
dans les fondations.
Solide.
Quelque chose de solide, ouais. Quelque chose qui allait aussi s'avérer très fort pour la sécurité. Donc de séparer tout le bas d'Unix. Et donc la version d'Unix qu'on avait était basée sur Mac, un système issu de CMU.
Un noyau Mac qu'on va retrouver dans macOS 10 quelques années plus tard.
Qu'on va retrouver dans macOS 10. Et au-dessus, d'avoir une user interface. Une interface utilisateur qui soit facile à utiliser, soit riche. C'était la première interface utilisateur qui était vraiment 3D, enfin pas tout à fait 3D, mais 2D et demi, quoi. C'est avec un peu d'effet en 3D.
Moi, ce qui m'avait surpris, c'était les polices vectorielles à l'époque. Il y avait une résolution, une finesse d'affichage qui était vraiment remarquable. Je n'avais pas les moyens de me le payer, mais j'avais eu la chance de découvrir un. C'était assez merveilleux à voir. Nextel, c'est l'un des principaux chantiers sur lesquels vous avez travaillé pour Next, mon cher Jean.
J'ai travaillé sur beaucoup de choses au sein de Next. Au début, j'ai travaillé un peu sur les outils de développement. Ensuite, j'ai aidé Jean-Marie sur Interface Builder, sur l'éditeur de texte. Et puis, après 2-3 ans, on a refait le le Finder Next, qui s'appelait Workspace Manager.
Workspace Manager.
Donc, on était trois. Il y avait Jean-Marie et puis il y avait Lee Boynton. Et on a travaillé sur ça pendant un an. Et c'était une période très intense. Je me rappelle, bon, c'est un petit souvenir personnel, je travaillais toute la nuit. Et puis, au matin, au petit déjeuner, j'allais à un café. Et là, je croisais mon épouse qui allait travailler. Et donc, on s'échangeait les nouvelles au café le matin pour le petit déjeuner.
Vous me donniez quelques tips, parce que j'ai quelques soucis dans ce moment, dans ce sujet. Une petite réaction d'un de nos tweetos fidèles. Regardez, je ne sais pas si on les appelle comme ça à l'heure de X aujourd'hui. Jean-Marc Couvray qui nous dit, à votre propos Bertrand et votre venue dans l'émission, waouh, un des rares à avoir son nom dans le système à l'origine de tout, Next Step. C'est vrai que vous êtes très modeste dans la manière où vous présentez vos travaux chez Next. Et vous l'avez dit, Workspace Manager, on a vu brillamment l'interface. Il y a votre nom associé à Lee Boynton et Jean-Marie Hulot. Voilà, vous êtes l'un des, aussi des pères fondateurs de ce système. Concrètement, Jean-Marie a joué un rôle très important à l'époque dans votre carrière et dans l'histoire de la tech. On voulait lui rendre hommage et je vous propose justement qu'on rende hommage à Jean-Marie Hulot. Jean-Marie était un autre Français de Next et d'Apple, un ingénieur visionnaire qui nous a quittés en 2019. C'est là vraiment l'un de vos mentors, Jean-Marie.
Ah oui, absolument. On a travaillé ensemble à l'INRIA. J'ai découvert la programmation objet à travers le système qu'il était en train de créer. J'étais toujours le premier utilisateur de son système.
Et Interface Builder. Non.
Ça s'appelait CX. Avant, à l'INRIA. À l'INRIA. À Next, bien sûr, on a travaillé ensemble pendant de nombreuses années. J'étais son lieutenant. Donc, je l'aidais sur quoi il travaillait. Et puis ensuite, il est parti de Next. Bon, comme on va le voir, je suis allé à Apple. Et il est revenu à Apple. Et donc, on a aussi collaboré pendant quelques années.
On va encore échanger un petit peu. En quoi son travail a été vraiment déterminant au sein de Next et puis plus tard auprès d'Apple? Quel était vraiment son... C'était sa personnalité, c'était sa manière de coder, c'était ses idées, c'était... Bref, on va voir que c'était un personnage un petit peu hors norme au quotidien.
Jean-Marie a toujours eu le don de comment présenter l'information. Et ça se voyait dans les interfaces utilisateurs qu'il créait, dans ses intérêts, par exemple l'interface builder, dans la programmation objet, qui est pour programmer de façon plus simple, dans les présentations qu'il faisait avec l'ancêtre de Keynote. Donc c'était ça qui était formidable avec Jean-Marie. Et puis il savait coder, bien sûr.
Et puis c'était un très très proche de Steve Jobs, et il savait très bien le conseiller, comme vous allez le voir dans un instant. C'est un personnage assez atypique, hein, Jean-Marie, d'une grande, grande simplicité, un amoureux des voyages, de l'Asie, qui détonnait dans l'univers de la Silicon Valley, où c'est vraiment business first, c'est vraiment quelqu'un qui était d'une grande ouverture d'esprit. Alors, nous avons eu la chance de le recevoir il y a quelques années, et il nous raconte dans cet extrait son entretien d'embauche avec Steve Jobs, extrait donc.
Je suis revenu dans les bâtiments de Next, et là, il y avait Steve qui m'attendait sur un canapé, et qui me dit, quand est-ce que tu commences à travailler pour
lui? Mais elle est où la lettre de motivation et le curriculum vitae?
Le CV, le curriculum.
Mais il n'y a pas de DRH dans cette maison, c'est pas géré, c'est pas possible.
Ah non, là il n'y en avait pas. Et puis surtout, moi je lui ai dit, tu sais, écoute, faut que j'y pense. En fait, oui, c'est intéressant, mais ça fait longtemps. Enfin, je me suis beaucoup fatigué pour faire ça. C'était beaucoup de travail. Et puis donc maintenant, je vais partir en vacances pendant un certain temps. On peut discuter après.
J'arrive. Steve Jobs, tu dis viens travailler.
Non, mais belle négociation. Moi, je dis belle négociation.
Et en fait, après, il me dit, bon, écoute, je te rappelle dans une semaine, dans 15 jours, c'est le temps des vacances habituelles américaines. Et je lui dis, non, Steve, c'est des vacances à l'européenne, donc moi, je pars en Thaïlande, au Laos, où je ne sais plus où je partais à l'époque, et je serai revenu dans, je ne sais plus si c'était un mois et demi ou deux mois.
Ah, les vacances européennes, c'est plus que ça, Jean-Marie.
Et donc, il dit, très bien, quel jour tu reviens, etc. Je lui donne le jour, et puis en fait, je pars, j'ai dû aller en Thaïlande, au Laos à l'époque, et qui était fermé à l'époque, donc c'était particulièrement intéressant. Et puis je suis revenu, j'avais un peu oublié cette histoire en fait. Enfin, c'est plus, j'étais parti dans une autre chose quoi. Une fois arrivé à la maison, au bout d'une heure, il y avait un coup de téléphone. Hi, this is Steve Jobs, what are you doing?
Mais t'as gardé la cassette?
Ah, il était accro.
Non, non, mais ça c'est les fanboys qui sortent. C'est énorme.
Ça résume bien le personnage, Bertrand.
Absolument.
C'était vraiment un proche. Hein. Ils sont pas très nombreux les personnes qui étaient intimement amies avec Steve Jobs.
Oui, oui. Ah oui. D'ailleurs, Jean-Marie était allé au mariage de Steve.
Ouais, et puis il a même raconté que lors de cette émission, qu'à un moment donné, lorsqu'il travaillait chez Next, il n'avait plus de carte verte ou de carte pour pouvoir travailler aux États-Unis, donc il était fréquemment obligé de rentrer en France. Mmh. Donc il n'avait plus de domicile dans la Silicon Valley et il logeait chez Steve à ce moment-là. Une proximité pour conclure sur Jean-Marie qui avec Steve qui faisait qu'il était particulièrement écouté peut-être par Steve à l'époque, et parce qu'apparemment c'était une des qualités de Steve de savoir écouter, et notamment la nécessité de lancer un téléphone. Autre extrait à écouter, c'est étonnant.
Ce qui s'est passé, c'est que Steve était revenu et passé à Paris, je le voyais chez revenir à Paris, j'étais régulièrement en relation avec lui, même si je n'étais plus chez Apple. Et il aime bien, en fait, c'est quelqu'un qui, et c'est bien de sa part, qui a beaucoup de connexions avec, enfin, qui a un certain nombre de connexions avec des gens en qui il a confiance, dans le monde technique ou autre, qui sont répartis dans le monde. Je pense qu'il en a peut-être plus aux États-Unis que dans le monde. Donc, en plus, c'était quelqu'un qui venait avec un point de vue radicalement différent, qui pouvait aimer prendre de temps en temps 3 mois de vacances, donc ce qui rafraîchit l'esprit. Et puis qui là aime bien avoir de ces gens, bah, quel est leur input sur ce qu'il faut faire à un moment donné. Et donc moi, il me demandait bah, qu'est-ce que tu vois venir dans les temps qui viennent. Et je lui ai dit, tu sais, Steve, tu n'auras pas le choix, il faudra que tu fasses un téléphone. À cette époque-là, il m'a dit, non, tu me dis des conneries, je ne vois pas pourquoi j'aurais à faire ça. C'était avant l'iPhone.
Je ne le crois pas. Mais bah oui, bah voyons.
Mais d'un autre côté, si, comme moi, à l'époque, j'étais parti et je m'amusais dans le monde interne, il m'a dit, si tu veux revenir et puis essayer d'étudier en fait, vraiment plus de quoi il s'agit, bah, pourquoi pas, en fait, étudier la question.
Étudier donc la question. Jean-Marie, donc, à ce moment-là, avait quitté Next, au moment du rachat d'Apple. On avance un petit peu sur le déroulé de l'émission, mais ce n'est pas grave. Et il a monté une cellule spéciale à Paris. Sur quoi a-t-il travaillé à l'époque, Bertrand, concrètement?
Il a travaillé sur... Il n'y avait pas encore d'iPhone à l'époque. Et il
c'est
a
quoi,
travaillé...
en début des années 2000, c'est ça, hein, en gros 2000...
Ah non, 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 c'est un peu plus tard que ça.
D'accord.
C'est plutôt 2004, je pense.
D'accord, donc 3 ans, 4 ans avant 2005. Le sortie de l'iPhone.
Oui. Ouais. Et donc, il a travaillé sur quelque chose qui faisait le sync, la synchronisation entre le Mac et le téléphone, quel que soit le téléphone que tu as, le téléphone Nokia.
On le voit, iSync, donc l'outil de synchronisation du... Ils sont forts, voilà. En régie. Vous savez ce que vous allez y répondre, dites-moi. Bravo, la régie. Donc, c'était quoi, le maillon manquant pour permettre l'arrivée d'un jour d'un téléphone qui puisse synchroniser avec la plupart des téléphones du marché, quoi.
Voilà, justement. Voilà. Et il y avait aussi iCal, donc le calendrier.
Formidable.
Qui était la première app à faire un calendrier joli. Ensuite, elle a été imitée par Google, toutes les autres compagnies, mais c'était un calendrier plaisant.
Qu'on pouvait en plus partager. Hein. C'est,
qu'on
c'est
pouvait
aussi,
partager.
C'était très innovant à l'époque. Pour cela, donc voilà, on souhaitait rendre un hommage à Jean-Marie Hulot qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Et on voulait penser à lui pour ce 40e anniversaire du Mac. On revient à Next et on revient au rachat de Next par Apple.
Oui, alors avant le rachat, il y a eu beaucoup d'étapes parce que, oui. Pour utiliser la terminologie courante, il y a eu beaucoup de pivots. Je ne sais pas si on dit la même oui. chose en français. Il y a eu beaucoup de pivots de la compagnie Next. Il y a eu l'abandon du hardware.
Donc l'arrêt de la fabrication des ordinateurs.
Voilà, il y a eu quelque chose qui s'appelait Interpersonal Computing, qui était en fait centré sur mail, sur le courrier.
Vraiment faire une sorte de machine pour le courrier électronique
pour le courrier,
et l'Internet, peut-être voilà, déjà à l'époque.
On avait une app qui était une... En fait, qui ressemble beaucoup à l'app qu'on a aujourd'hui sur le Mac. Ouais. D'ailleurs, il y a une descendance directe du code même. Et puis ensuite, il y a eu un ingénieur de vente qui a fait un produit pour relier Next Step à des databases. ça s'appelait DBKit, et ça a eu un relativement bon succès, enfin à l'échelle de Next, bien sûr. Il y a eu plusieurs compagnies qui l'ont utilisé pour faire rapidement des interfaces utilisateurs qui parlaient à des databases.
Ce n'était pas encore pour générer des sites Internet, hein. C'était plus pour gérer des flux de marchandises en interne dans les entreprises.
C'est ça, ouais. C'est ça. Et en fait, on a fait une version après qui s'est appelée Enterprise Object Framework, EOF. Et à ce moment-là, il y a eu le web qui est apparu. Et donc, on a fait une version qui s'est appelée WebObjects.
WebObjects, serveur d'application.
Qui était donc une application qui prenait votre database dans SQL, dans Oracle, le gros truc. On définissait un modèle des objets qui sont dans la database. Et ensuite, on poussait ces objets sur le serveur qui vendait des pages HTML. Et ensuite, les pages étaient poussées sur le client, donc l'interface web. Et c'était le premier système qui fasse des pages dynamiques basées sur des données enterprise.
Donc là, WebObjects a permis l'émergence du e-commerce, on peut dire ça, quelque part.
Bon, il y avait d'autres compagnies qui commençaient à faire ça, mais on était l'une
des premières. Il y avait de belles entreprises qui avaient signé à WebObjects, je me souviens, notamment d'une qui était un concurrent d'Apple, qui était d'elle. Hein. C'est un modèle économique qui était basé grâce à WebObjects.
Voilà.
Build to order à l'époque.
Hein. Build to order, et toutes les ventes d'elle online étaient passées par WebObjects.
Voilà, c'était vraiment une pépite à l'époque au sein de Next.
Voilà, et donc vers l'été 96, on s'apprêtait en fait à faire une IPO, je sais pas comment dire,
introduction
en bourse de Next basée sur WebObjects.
Donc vraiment dans le secteur du B2B, à des années-lumière d'Apple aujourd'hui. Hein.
Voilà.
Alors justement, et c'est à ce moment-là que une opportunité se présente à Next, et c'est une certaine société basée Infinite Loop, Cupertino, on ne connaît pas. Allez, chapitre suivant. Pour célébrer les 40 ans du Mac, NordVPN vous fait un cadeau de 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez une offre VPN de 2 ans. Aussi, si vous en avez assez des pubs de plus en plus nombreuses sur YouTube et souhaitez les voir disparaître, NordVPN vous propose un petit tip. Plutôt que d'installer un ad blocker de moins en moins efficace, lancez l'app plutôt NordVPN sur votre Mac ou iPhone et sélectionnez un serveur albanais. Vous pourrez alors accéder à des vidéos sans pub. Pour vous abonner à NordVPN, rien de plus simple, scannez le QR code qui s'affiche à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Alors, avant de parler du rachat et des coulisses, parce que vous étiez un artisan également, il y a un constat à faire, c'est l'échec au sein d'Apple du projet macOS traditionnel qui s'appelait à l'époque Copland. Comment expliquer, vous en tant qu'expert du code et du développement du système d'exploitation, qu'Apple s'était comme ça confiné face à une voie de garage et qu'ils n'ont pas su passer, justement, sans jeu de mots, au next step?
Oui, il y a eu plusieurs projets. Il y a eu Copland, mais il y a eu aussi Taligent, qui avait été fait en collaboration avec IBM. Et puis, il y a eu quelques autres projets internes. Et ce qui était dur, je crois, c'est de faire un projet qui soit au bon niveau, c'est-à-dire suffisamment ambitieux pour s'éloigner des bases du vieux Macintosh, du vieux macOS, qui n'était pas scalable, qui mélangeait à la fois l'interface utilisateur et les choses vraiment profondes au sein de la machine. Donc, faire quelque chose qui se démarque de ça, mais qui ne soit pas trop ambitieux et qui soit réalisable dans un temps fini.
Et au-delà, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un problème de management, un problème politique, comme souvent dans les grandes entreprises, comme était déjà Apple à l'époque ? On en reparlera plus longuement dans un instant, mais est-ce qu'il y avait aussi un problème de vision aussi d'un manager visionnaire ?
Peut-être, ça je ne sais pas. Il y avait énormément de très bons ingénieurs au sein d'Apple et qui sont restés pendant toute la durée de la transition à macOS 10.
Alors, je vous le disais en préambule de cette émission, on n'a pas de chroniqueur avec nous, de chroniqueur habituel, mais ils ont enregistré des questions pour notre ami Bertrand. Et on commence tout de suite avec Laurent Pantanach.
Bertrand, il se dit que vous êtes celui à avoir fait la démo d'OpenStep devant Apple, ce qui a in fine mené au rachat de Next par Apple. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Oui, je crois que c'était vers le début décembre 96, et quelqu'un de chez Next avait contacté les gens d'Apple et leur a dit « Vous êtes en train d'acheter Bi, mais vous devriez regarder ce que nous, on avait avec Next Step ». Donc, mon manager de l'époque, qui était Avi Tevanian, m'a dit bah, « Écoute, Bertrand, je sais que maintenant tu fais WebObjects, mais tu es l'un des plus anciens qui reste de l'équipe qui a fait Next Step. » Donc, Jean-Marie était parti, il y en avait d'autres qui étaient partis au cours des années, au cours des différents pivots de Next. Donc, j'ai rassemblé trois ou quatre des vieux de la vieille de Next, qui avaient contribué à Next Step, et on a fait une démo aux trois évaluateurs venant d'Apple, venant de Cupertino, qui étaient là pour regarder.
Alors, quel a été leur... on fait confiance pour l'effet « waouh ». Quelles ont été leurs réactions, concrètement? C'était un moment de convivial, un moment tendu, un moment de surprise, un moment...
Oh, c'était pas tendu parce que mes expectations de cette démo étaient très faibles.
Il n'y avait pas d'enjeu particulier pour vous.
Bon, ça me paraît, Next Step, c'était un vieux truc. On l'avait un peu dépoussiéré pour la démo. Mais,
c'est incroyable, ça, pendant tout ça aujourd'hui.
Mais donc, je n'ai pas senti l'intensité du moment à l'époque.
Peut-être ça vous a rendu service, peut-être.
Donc, on leur a montré, puis on leur a dit, oui, on avait ça. Oui, on avait ça aussi. Oui, on avait ça. On avait même quelque chose qui ressemblait un peu à QuickTime. On avait tous ces biens technologiques. Et donc, ils en sont repartis, je crois... surpris parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait tout ça dans Next Step.
Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, moi je n'en avais pas forcément conscience, Bertrand, il n'y avait plus forcément une énorme ambition de la part de Steve Jobs et du board de Next de développer son système d'exploitation. On était passé plutôt sur WebObject.
On avait complètement abandonné Next Step, Next Step, OpenStep, et en fait on avait simplement quelqu'un qui était en charge, qui s'appelait Rick Berman, qui était en charge de la continuité avec les customers, parce qu'il y avait des contrats qui portaient sur plusieurs années, des contrats de maintenance, et donc qui gérait l'historique en fait. Et moi j'étais en charge de WebObjects.
Avec le recul, vous imaginez la portée, l'importance de cette petite démo dans l'histoire d'Apple aujourd'hui. Incroyable.
Oui, ça a bien marché.
Alors, vous parliez du Bi tout à l'heure. Quels étaient vos concurrents à l'époque et les options pour Apple pour remplacer macOS? Il y avait Next, il y avait Bi. Alors, Bi, c'était la société
de Jean-Louis Gasset.
Un autre grand français de la Silicon Valley.
Et donc, les évaluateurs, les trois évaluateurs qui travaillaient pour... Hélène Hancock, qui travaillait, elle, pour Guy Lamelio, qui était le CEO d'Apple, ont vu, en fait, qu'il y avait peut-être plus de technologies sur Next Step qu'il y en avait sur Bi.
Alors, Bi, c'était l'autre grand système d'exploitation qu'avait mis au point Jean-Louis Gasset. Il nous racontera cette histoire, puisqu'on aura la chance de la voir également dans notre cycle d'émissions consacré aux 40 ans du Mac. On disait à l'époque qu'il y avait aussi une option Solaris, une option Windows NT. C'est de l'info ou de l'intox qu'Apple étudiait?
Non,
ça
je
de
crois
près.
Que ça n'a jamais été vraiment considéré. probablement, notablement, parce qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs au sein d'Apple qui étaient très réticents sur l'idée d'avoir Unix à l'intérieur de l'operating system.
C'est clair. Et puis, moi, je n'étais pas encore... j'étais beaucoup trop jeune pour être journaliste à l'époque, quoique. Et dans les bookmakers, ce n'étaient pas forcément les favoris sur le papier. Bi OS semblait vraiment le favori, de par la personnalité de Jean-Louis Gasset, qui était l'ancien vice-président d'Apple, qui a succédé à Steve Jobs après son départ en 85. Et le système fonctionnait sur plus PowerPC, qui était la puce d'Apple à l'époque.
Alors, l'éléphant dans la salle, bien sûr, c'était aussi la présence de Steve.
Mine de rien.
Et Guy Lamelio a été complètement séduit par Steve, qui s'est mis sur son meilleur jeu.
Donc là, il montait au créneau, quand même.
Absolument, absolument. Ouais. Et donc, je crois que c'est ça qui, indépendamment des aspects techniques, je crois que c'est ça qui a remporté le jour, le deal.
Donc il n'y avait pas forcément une avance particulière. Il y a même peut-être un défaut particulier, effectivement, un défaut, même un, je dirais un handicap par rapport à Bi, c'est que Bi, on pouvait l'installer du jour au lendemain sur un Mac, où il fallait le porter sur puce pour RPC en ce qui me concerne, puisque vous le disiez tout à l'heure en préambule, vous l'aviez adapté à la puce Intel, mais ça va avoir une importance un peu plus tard.
Oui, oui, et ça, on l'avait adressé durant la démo et la discussion qui a suivi. Il était clair qu'on avait porté Nextstep sur différents puces au cours des années. On avait porté aussi les morceaux bas de Nextstep sur plusieurs processeurs, même HP. Donc, on était complètement cross-plateforme.
Ce n'était pas un souci particulier.
Non, ce n'était pas un souci pour nous.
Et finalement, à la surprise générale, le 20, parce que pour beaucoup d'observateurs, ce n'était pas le favori, le 20 décembre 1996, pardon, Apple rachète Next pour 429 millions de dollars. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, hein, ça dépend. Il y a aussi des actions qui ont été partagées avec Steve Jobs. Mais est-ce qu'à ce moment-là, personnellement, il y avait une relative amertume que quelque part l'aventure Next se termine?
Ah non, pas du tout. J'étais complètement excité par ça. Ouais. En fait, je devais rentrer en France pour les vacances de Noël. J'avais un petit bébé, donc je voulais montrer aux grands-parents.
À la famille.
Mais j'étais tellement excité que j'ai dit à Vi, ah non, j'annule mes vacances et je vais réfléchir à comment faire pour mélanger macOS et puis Nextstep.
Donc au contraire, on comprend mieux maintenant, étant donné que Nextstep était un petit peu sur une voie de garage, ça a apporté forcément une perspective impensable que Nextstep allait redevenir finalement la vitrine d'Apple et du Mac demain.
Alors, Avi, mon manager, m'a dit, mais écoute, c'est bien que tu sois excité par ça. Donc, ce que je te propose, c'est de permuter ton job avec Rick Berman. Donc, maintenant, tu es en charge de Nextstep et Rick est en charge de WebObjects.
D'accord. Alors, et justement, c'est ça qui est assez étonnant parce que là, on est en train de comprendre que Steve a passé... Et Avi a passé des hommes clés de Next chez Apple pour œuvrer à sa reconstruction. On a presque l'impression que c'est Next qui rachète Apple et pas l'inverse. Hein.
Steve était assez distant. Il était dans l'acquisition, il parlait à Guillaume Elio, tout ça. Mais je pense que Steve avait été ambivalent à propos de revenir à Apple. Il ne savait pas s'il voulait vraiment faire ça. Et son gros truc à l'époque, c'était Pixar.
Ouais, Pixar qui marchait bien. Toy Story qui voilà. Crevait les écrans.
Voilà.
Donc il n'y avait pas, selon vous, à l'époque, une ambition particulière de Steve Jobs, non. Un plan machiavélique pour revenir au sein d'Apple,
non, absolument
la société
pas.
Qu'il avait fondée quelques années auparavant.
Et même en février, en mars, je me rappelle de conversations dans lesquelles Steve disait je suis ambivalent, je ne sais pas si je veux revenir, tout ça, il y a Guillaume Elio de toute façon...
Ou alors c'est un formidable acteur, ou alors il a
non,
vraiment.
Non, Steve était sincère.
On essaiera de comprendre si vous êtes d'accord. Mais la semaine prochaine, dans une deuxième émission, comment vous avez certainement contribué à le faire basculer, à le faire rester chez Apple, et puis ce formidable chantier que vous avez mené pour construire macOS 10. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le deuxième épisode qui est consacré effectivement. À la genèse de macOS 10. Vous le disiez, Steve Jobs qui était vraiment focusé sur, à ce moment-là, sur Pixar, qui n'était pas du tout décidé à prendre la succession de Guillaume Elio. Et effectivement, on verra encore une fois s'il y avait ou non un plan machiavélique. C'est la fin de ce déjà 500e épisode d'En refait le Mac. Merci d'avoir suivi. Merci pour cette première partie, Bertrand, passionnante. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel épisode. Au revoir.
Au revoir.